Vous écoutez On lit pour vous.
Un comité LGBTQ+ pour les retraités de la FAE. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue. Ils sont plusieurs milliers à l'Association des personnes retraitées de la Fédération autonome de l'enseignement, APR-FAE, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de regroupement pour défendre les intérêts des LGBTQ+. Le militant André Patry, lui-même à la retraite, a repris son bâton de pèlerin pour créer un groupe. Le 21 mars dernier, on lançait donc à la Maison de la culture Mercier le Comité des alliés et alliées pour la diversité sexuelle et de genre LGBTQ2. André Patry a été enseignant de 1980 jusqu'à 2019, année où il a pris sa retraite. Mais qu'est-ce qui l'a bien poussé à mettre sur pied un tel regroupement en 2024? Dans le fond, notre association de retraités suit notre militance comme dans le militantisme syndical, explique celui qui est membre du conseil d'administration de la APR-FAE. Les gens restent actifs comme dans la structure syndicale d'avant. Il y a un comité pour les droits des femmes, un comité environnement, un comité sociopolitique, etc. Mais il n'y avait pas de comité pour les LGBTQ2+. Donc, je me suis dit qu'on va en créer un. C'est comme ça que c'est parti. Il y a eu des réticences polies face à la création d'un tel comité. J'ai été surpris. Je pensais que les gens étaient plus renseignés que ça sur les réalités LGBTQ+. Je me suis aperçu que l'atmosphère véhiculait encore certains préjugés, certains malaises chez ces personnes dont la majorité sont dans la fin soixantaine et donc qui ont vécu dans une époque où persistait une certaine discrimination à l'égard des personnes LGBTQ2+, ajoute André Patry, qui est le responsable politique. Les enseignantes et enseignants actifs de ce temps, il y a trois décennies, ont grandi avec une éducation qui stigmatisait l'homosexualité comme une maladie mentale et un crime, a déclaré André Patry, lors de la soirée de lancement du comité. La loi du Bill Omnibus leur a enseigné que l'homosexualité était tolérée, mais uniquement dans la sphère privée. Les gays et lesbiennes étaient réduits à leur sexualité, oubliant ainsi toute leur identité, leur culture et leurs droits. À cette époque, ils pouvaient être expulsés de leur logement, perdre leur emploi et subissaient une discrimination systémique dans de nombreux aspects de leur vie, y compris le mariage, la filiation, le don de sang et même le service militaire. L'épidémie du sida a également décimé toute une génération, laissant des cicatrices profondes dans notre communauté. En référence à l'épidémie du sida qui a décimé la communauté gay dès les débuts des années 1980, André Patry explique. À 25 ans, je me souviens avoir fréquenté des salons funéraires, alors que ma mère, aujourd'hui âgée de 90 ans, en fait de même. Une photo d'un groupe de jeunes hommes gays avec lesquels j'ai voyagé me rappelle que je suis le seul survivant. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, mais celle de nombreuses personnes de ma génération qui aujourd'hui rejoignent nos associations de personnes retraitées et âgées. Lorsque j'ai expliqué ceci devant les membres de la APR-FAE, ils ont été choqués et estomaqués. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé à l'époque dans notre communauté et que beaucoup d'hommes gays avaient disparu en raison du sida. Il faut le dire, l'expliquer. C'est un devoir pour moi de raconter ça et d'expliquer les combats que nous avons menés, comme l'Union civile, par exemple. Des activités en lien avec Fierté Montréal sont prévues pour cet été. Avec un certain budget, le Comité des alliés et alliés pour la diversité sexuelle et de genre LGBTQ2 va soutenir des organisations communautaires venant en aide aux gens de la communauté, comme la Maison Plein Cœur, par exemple, et son programme de distribution alimentaire aux personnes vivant avec le VIH-SIDA et à faible revenu. Ce comité s'engage activement dans l'information, l'éducation et la sensibilisation sur la communauté LGBTQ2+. Nous collaborons avec des organisations telles que la Fondation Émergence, qui offre une formation sur le vieillissement LGBTQ2+, de dire André Patry, qui a enseigné auprès d'élèves sourds ou ayant une déficience intellectuelle, et ce, durant 39 ans au total. Comme on le constate, ce comité de retraités LGBTQ+, ne sera pas que pour organiser des barbecues, des sorties dans les musées ou des randonnées pédestres. Il y a quelques semaines, des représentants de APRFAE ont participé à une manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza. « Nous restons très, très actifs et engagés », rajoute-t-il. Le Québec demeure l'un des endroits où la qualité de vie de cette communauté est parmi les meilleures au monde. Cependant, les préjugés persistent et nous observons même une montée de la droite politique, ce qui est préoccupant. C'est pourquoi notre comité s'est fixé pour mission d'agir auprès de nos membres ainsi que des principaux acteurs de la société pour promouvoir la diversité sexuelle et de genre, avait dit André Patry, lors de la soirée à la Maison de la Culture Mercier. Il faut rester vigilant, c'est pourquoi, à 65 ans, je demeure un militant, je ne lâche pas. Je suis encore un pionnier dans cette lutte-là, conclut-il. C'était un comité LGBTQ+, pour les retraités de la FAE, un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Les crédits carbone, action ou illusion? Un texte de Valérie Simard, paru le 10 mai 2024 dans la presse. La transition écologique est complexe. Chaque semaine, nous explorons les solutions à notre disposition pour avoir une incidence sur la crise climatique et environnementale. Une analogie est couramment utilisée pour illustrer l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, celle de la baignoire. Si vous remplissez votre baignoire plus vite que ce que le drain peut évacuer, inévitablement, le niveau d'eau va augmenter. C'est ce qui se passe avec le CO2, qui est ajouté à l'atmosphère plus rapidement que ce que la surface de la Terre peut absorber. Si vous ne fermez pas le robinet de la baignoire, mais que vous payez une entreprise pour retirer de l'eau dans 10 ou 15 ans, échapperez-vous au débordement? C'est l'une des critiques dont font l'objet les crédits compensatoires de carbone, qui permettent de financer des projets de réduction de GES. Ces crédits permettent la production d'énergie renouvelable, l'augmentation de l'efficacité énergétique, la plantation d'arbres ou la lutte contre la déforestation. Est-ce que l'on paie uniquement pour se donner bonne conscience? Ou est-ce que ça contribue réellement à réduire nos émissions? Se demande Richard Perron, un lecteur qui estime à entre 100 et 360 $ la somme que sa femme et lui déboursent chaque année pour compenser l'empreinte carbone de leurs déplacements. Depuis quelques années, l'offre de programmes de compensation carbone sur le marché dit « volontaire » s'est généralisée chez les transporteurs aériens. Récemment, Richard Perron a versé un supplément de 10,88 $ à Air Canada pour l'achat de crédits compensatoires pour un vol entre St. John's et Victoria qu'il fera en juin. Ce n'est pas un gros montant. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ou est-ce que c'est de l'éco-blanchiment? S'interroge-t-il. Des lacunes exposées. Chez les acteurs du secteur et dans le milieu universitaire, la question fait débat. D'abord au chapitre de la fiabilité des programmes et ensuite par rapport à l'existence même de cette approche. Au cours des dernières années, des enquêtes journalistiques et analyses scientifiques ont démontré que plusieurs projets, qui respectaient pourtant les normes internationales les plus élevées, ne permettaient pas de réelles réductions de CO2. Aussi, Bien que plusieurs crédits soient émis après que la réduction ou le captage de carbone ont eu lieu, d'autres le sont par anticipation. Le problème, il peut parfois s'écouler des années, voire des décennies, avant que les arbres absorbent le CO2 émis par le vol en avion qu'un voyageur souhaite neutraliser. Or, il reste peu de temps pour agir afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, alertent les scientifiques du GIEC. Il y a 2 ans, devant les manquements révélés de l'industrie, la Fondation David Suzuki a retiré son appui à tout programme de compensation carbone. La compensation carbone est une excuse utilisée par les industries pour ne pas faire plus pour réduire directement leurs émissions, soutient Thomas Green, conseiller principal en matière de politique climatique à la Fondation David Suzuki. Dans une revue systématique de littérature publiée en janvier dans Transport Policy, un chercheur de l'Université de Lisbonne a constaté que ces programmes ont une contribution limitée à la durabilité de l'aviation, notamment en raison de leur inefficacité à modifier le comportement des voyageurs et de leur faible taux d'adhésion. Le biologiste Jean-François Boucher, professeur en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi et expert en gestion du carbone forestier, croit pour sa part fermement en l'impact de la compensation carbone. Tant que le programme de compensation a une certification reconnue telle que VSC ou Gold Standard ou qu'il adhère à la norme ISO 14064-2 et soit vérifié en ce sens. S'il prône d'abord la réduction à la source, il croit aussi que cette diminution doit aller de pair avec une compensation des émissions restantes. Les arbres plantés aujourd'hui nous rendront de grands services dans 1 ou 2 décennies. Il faut qu'on augmente de beaucoup, à l'échelle mondiale, l'absorption de gaz à effet de serre. Sans ça, on n'arrivera pas à la carboneutralité, dit M. Boucher, qui était jusqu'en 2018 directeur scientifique de Carbone Boréal, un programme de compensation de GES, qui est aussi une infrastructure de recherche de l'UQAC, et qui vend des crédits, par anticipation. Même si cette approche ne permet pas une adéquation temporelle parfaite entre émission et absorption, si on n'acceptait pas ce genre d'initiative, on n'aurait pas de plantation qui se ferait, ou ce serait très difficile à financer, argue-t-il, disant avoir bon espoir que les certificateurs sauront corriger les lacunes. Pour Kate Irvine, professeure associée en études sur le développement international à l'Université St. Mary's d'Halifax et autrice de l'essai carbone, l'approche même de la compensation carbone est une distraction dangereuse. Dans le contexte où il y a urgence d'agir, l'abordabilité des crédits offerts sur le marché volontaire ne permet pas de changer rapidement les comportements. Comme individu, nous nous disons « Waouh, c'est vraiment facile et peu coûteux. Maintenant, je peux continuer à faire tout ce que j'ai toujours fait. » Ce n'est pas une solution transformative. Alors que très peu de gens sont prêts à renoncer à l'avion, la compensation carbone n'est-elle pas un moindre mal? Si vous décidez de voyager, envisagez plutôt la possibilité de contribuer à des organisations qui font un travail vraiment significatif, par exemple, des groupes qui travaillent à l'atténuation des changements climatiques ou à la restauration écologique dans leur communauté. Mais ne prétendez pas ensuite que vous avez neutralisé votre activité à forte densité de carbone, nous dit Kate Irvine. Un avis que partage Thomas Green de la Fondation David Suzuki. Ça nous force à nous demander « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce vol? » Et si oui, Est-ce qu'il y a une manière de gérer ça? Si prendre l'avion pour visiter de la famille peut nous sembler indispensable, est-ce le cas de cette réunion à laquelle notre patron nous demande d'assister en personne? Ce dilemme n'est pas simple pour bon nombre de voyageurs. Les experts s'entendent toutefois sur une chose, compenser, ce n'est pas réduire. Piste de solution. Le chiffre de la semaine, 287 000. Près de 230 000 arbres et 57 000 arbustes seront plantés dans l'est de Montréal afin de réduire des îlots de chaleur et améliorer la qualité de l'air et l'accès à des milieux naturels pour les résidents du secteur. Cet investissement de la Ville de Montréal et du gouvernement du Canada a été annoncé lors du sommet Climat Montréal qui s'est tenu plus tôt cette semaine. L'argent versé par le gouvernement fédéral s'inscrit dans le programme 2 milliards d'arbres qui vise la plantation d'autant de végétaux d'ici 2030. La bonne idée, les déchets comme monnaie d'échange. Brasseur artisanal, fleuriste, apiculteur, en France, les Marseillais peuvent désormais payer leurs petits achats dans une dizaine de commerces avec une monnaie obtenue grâce à la collecte de déchets. Cette monnaie sauvage, fabriquée en plastique recyclé, provenant de déchets marins récoltés, vise à récompenser les citoyens pour leurs gestes de nettoyage. L'association Sauvage Méditerranée a mis en circulation 1000 pièces d'une valeur équivalente à 5 euros, 1 kilo de déchets égale 2 pièces. Pour chaque pièce dépensée dans un commerce participant, l'organisation versera 5 euros à une association vouée à la défense de l'environnement. Matière à réflexion, repenser le voyage. Alors que les changements climatiques entraînent une réflexion sur nos habitudes de voyage, la Terre au carré propose un échange intéressant sur notre rapport à l'ailleurs et sur les enjeux pour le tourisme de demain. C'est l'occasion de découvrir cette émission quotidienne consacrée à l'environnement, animée par Mathieu Vidard. France Inter a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle disparaîtrait sous sa forme actuelle à la rentrée pour être remplacée par une nouvelle mouture, une décision qu'ont déploré de nombreux auditeurs. C'était « Les crédits carbone, action ou illusion ?» un texte de Valérie Simard, paru le 10 mai 2024 dans la presse.
À quel âge les hommes québécois ont-ils leurs enfants? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 18 avril 2024 dans La Presse. Traditionnellement, les scientifiques étudient la fécondité du point de vue des femmes et beaucoup moins de celui des hommes. Mais combien d'enfants les hommes ont-ils en moyenne? Et à quel âge? Pour la première fois, l'Institut de la statistique du Québec a publié à la mi-avril 2024 une analyse de la fécondité masculine de 1976 à 2022. Résumé en 6 points. 1,39 enfants. Voilà l'indice synthétique de fécondité des hommes au Québec pour l'année 2022. En d'autres mots, si les hommes connaissaient tout au long de leur vie féconde les mêmes niveaux de fécondité qu'en 2022, ils auraient en moyenne 1,39 enfants. Il s'agit du taux le plus bas observé au cours des 20 dernières années. C'est en 1987 que l'indice le plus bas a été enregistré au Québec avec 1,34 enfants par homme. Multifactoriel. Cette diminution de la fécondité s'observe dans plusieurs pays occidentaux et plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, indique la démographe Anne Binette-Charbonneau, auteure de l'analyse. D'abord, les gens ont tendance à reporter leur projet familial, études, carrière, accès à la propriété, ce qui tend à limiter le nombre d'enfants qu'ils auront dans leur vie. D'autres éléments peuvent contribuer. Pensons aux transformations des dynamiques familiales et des dynamiques de couple, au climat social, au contexte économique, à la confiance en l'avenir, énumère-t-elle. Fécondité. La fécondité chez les hommes, 1,39, est légèrement inférieure à celle des femmes, 1,49. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il naît un peu plus de garçons que de filles et qu'il y a donc plus d'hommes que de femmes en âge de se reproduire. On rapporte le même nombre de naissances à un effectif plus grand d'hommes, explique Mme Binette-Charbonneau. Avant 1986, le ratio était inversé. La fécondité était un peu plus grande chez les hommes. Les premières cohortes féminines du baby-boom ont fait des enfants avec des hommes souvent issus de cohortes plus vieilles et donc moins nombreuses, explique Anne Binette-Charbonneau. Âge moyen. En 1976, les hommes les plus féconds au Québec étaient ceux âgés de 25 à 29 ans. Mais c'est chose du passé. Depuis le tournant des années 2000, ce sont les Québécois de 30 à 34 ans qui se reproduisent le plus. L'âge moyen à la paternité est ainsi passé de 30,3 ans en 1976 à 33,8 en 2022, une hausse de 3 ans et demi en 50 ans, semblable à celle observée chez les femmes. On peut penser que les hommes reportent le projet de famille pour des raisons semblables à celles des femmes. Études, carrière, sécurité financière. 3 ans, mais... Quand un enfant naît au Québec, son père a en moyenne 3 ans de plus que sa mère, un écart qui est assez stable depuis 50 ans et qui est représentatif de ce qu'on observe dans les autres pays développés, de 2 à 4 ans. Cet écart varie toutefois en fonction de l'âge du père. Les jeunes pères, 30 ans et moins, en moyenne, ont pratiquement le même âge que leur partenaire. Mais après 30 ans, l'écart d'âge se creuse à mesure que l'âge du père augmente. Un père de 40 ans a, en moyenne, 5 ans de plus que la mère, et un père de 50 ans, 13 ans de plus. Les hommes n'ont pas une limite biologique aussi clairement définie que celle des femmes, rappelle Anne Binette-Charbonneau. Dans le monde. Parmi les pays qui publient des données sur la fécondité masculine, le Québec se positionne de façon intermédiaire, indique la démographe. La fécondité des hommes au Québec serait supérieure à celle des hommes de la Suisse, de la Norvège et de l'Allemagne, comparable à celle des hommes de la Suède et inférieure à celle des hommes de l'Australie et de la France. C'était « À quel âge les hommes québécois ont-ils leurs enfants? » Un texte de Catherine Hanfield, paru le 18 avril 2024 dans La Presse.
L'impact de votre retraite sur vos animaux. Un texte de Michel Pepin, paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage. Vous êtes désormais plus souvent à la maison et vous remarquez des changements de comportement chez votre chat ou votre chien. Quelles en sont les raisons? Devez-vous vous en inquiéter? Voici quelques pistes pour comprendre l'impact de la retraite sur les animaux. Vive la routine! Contrairement à nous, les chats, les chiens et autres animaux de compagnie n'ont pas besoin de montres, cadrans ou téléphones intelligents pour décider quand se lever, manger, s'activer, ne rien faire ou dormir. Ceux qui possèdent des chats, des chiens ou même des oiseaux avoueront qu'à les regarder agir, On dirait qu'ils ont leur propre petite horloge interne, tant ils semblent en mesure d'accomplir et de répéter des actions à des moments très précis de la journée. En fait, il n'y a pas de secret. Nos animaux de compagnie sont des êtres d'habitude à qui la routine convient parfaitement. Évidemment, si la majorité de ces comportements découlent d'impératifs primaires comme se nourrir et peuvent être influencés par des stimulus auditifs, olfactifs ou visuels de leur environnement, bon nombre sont acquis des humains avec qui ils partagent leur vie et dont ils examinent les plus infimes réactions. Si vous croyez que les Google et Facebook de ce monde passent la journée à vous surveiller, sachez que ce n'est absolument rien en comparaison de ces petits espions poilus qui cohabitent avec vous et qui ne cessent de vous observer du coin de l'œil pour prévenir et anticiper vos moindres gestes. Les habitudes quotidiennes chamboulées. Il n'est donc pas surprenant qu'au moment de votre retraite, leur belle et rassurante routine soit perturbée, un peu comme lors des vacances, des congés ou même de la pandémie de COVID-19. Bien que les chats puissent également être déstabilisés, ce sont surtout les chiens qui en ressentent le plus les effets. Dans certains cas, c'est positif, car son humain a plus de temps à lui consacrer pour marcher, jouer, le brosser ou le cajoler. À l'opposé, la retraite peut aussi signifier des horaires plus atypiques avec des levées et couchers à des heures variables, davantage de sorties en soirée ou plus d'absences prolongées pour les loisirs ou les voyages. Pour d'autres, moins chanceux, ce sera la découverte de la pension pour chiens ou le gardiennage chez des amis. Le plus grand impact de votre retraite sera sans doute d'obliger votre animal à sortir un peu plus de la sienne. L'importance de bien observer. Une autre conséquence de passer plus de temps avec son animal, c'est qu'on en a justement plus pour l'observer. Soudainement, on remarque qu'il se gratte les oreilles plus souvent, qu'il semble avoir de la difficulté à croquer sa nourriture, qu'il va fréquemment dans sa litière, qu'il a une petite bosse sur le ventre, qu'il ne bondit plus sur le fauteuil. Toutes des choses que, dans le brouhaha des journées, accaparés par notre travail, nous n'avions pas toujours le loisir de détecter. Il faut alors rester calme, ne pas sauter aux conclusions et prendre le temps de consulter son vétérinaire pour être rassuré sur son état. C'était « L'impact de votre retraite sur vos animaux », un texte de Michel Pepin paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage.